France Inter, Ali Badou, 15 minutes de plus.
15 minutes de plus, et j'ai donc le bonheur et l'honneur de recevoir d'un de nos plus grands scientifiques, prix Nobel de physique. Bonjour Alain Aspect.
Bonjour Ali Badou.
Et bienvenue, vous êtes professeur à l'Institut d'Optique et à l'École Polytechnique, directeur de recherche chez NRS, émérite au CNRS, membre de l'Académie des Sciences, et vous êtes décrit souvent comme celui qui a donné tort à Einstein. En tout cas, c'est le titre de votre livre, Si Einstein avait su, livre passionnant qui a été publié aux éditions Odile Jacob, et vous faites un travail formidable de pédagogie. Vous le dédiez dans votre avant-propos à un public non spécialiste qui souhaite en savoir un peu plus sur la façon dont la physique change notre vision du monde. Et merci d'avoir accepté de le faire avec nous ce matin, Alain Aspect, puisque pour ma part, je suis quasiment analphabète en physique, ou en tout cas j'en suis resté, je pense, peut-être au mieux aux lois de Newton. Mais il y a deux mots qu'on entend en étant rarement capable de les expliquer quand on parle de physique, c'est la physique quantique. Qu'est-ce que la physique quantique, Alain Aspect ?
Alors la physique quantique, c'est pas facile à expliquer, mais merci de me donner l'occasion de l'expliquer à un public qui n'est pas forcément familier. La physique quantique, c'est la théorie physique qui permet de décrire le monde de l'infiniment petit à l'échelle des atomes, des molécules, de la liaison chimique. Et ce qui est particulier à la physique quantique, c'est que cette description est radicalement différente de celle que vous avez évoquée, les lois de Newton qui nous permettent de comprendre le mouvement des planètes, mais oui, aussi tout simplement le mouvement d'une pierre que vous lancez devant vous.
D'une pomme qui tombe d'un arbre,
exactement. Et donc la physique quantique ne s'exprime pas du tout de cette façon, c'est un formalisme mathématique. C'est un formalisme mathématique abstrait qui se déroule dans des espaces mathématiques, qu'on appelle des espaces de Hilbert, peu importe. Et tout se passe bien dans ces espaces, mais à la fin, il faut bien poser la question, oui, mais quand je vais faire une mesure dans mon espace à moi, qu'est-ce qui va se passer ? Et la seule chose que la physique quantique peut faire, c'est répondre à cette question. Mais elle ne vous dit pas ce qui se passe dans notre espace entre le moment où vous avez, si j'ose dire, lancé la pomme et le moment où elle a atterri. Et c'est ça qui rend la physique quantique extrêmement difficile à représenter par des images. Parce que je pourrais vous dire, eh ben, la pomme, d'un certain point de vue, elle va se comporter comme une onde. Une onde, vous voyez ce que c'est, une onde sonore. Mais d'un autre point de vue, elle va se comporter comme une particule, comme un objet bien concentré. Les deux à la fois. Alors vous dites, non, c'est pas possible les deux à la fois. Et si, dans le formalisme mathématique, c'est possible ?
C'est possible, Alain Aspect. Dans ce monde micro, les lois qui régissent l'évolution, le mouvement des particules, ne sont pas les mêmes, justement, que celles que j'évoquais avec
La pomme.
Avec la pomme et avec Newton. La physique quantique, elle explique l'intrication quantique. C'est une autre expression un peu complexe, on va faire une expérience de pensée. Alors, je sais que vous venez de dire qu'il ne fallait pas employer d'image parce que Mais on va essayer quand même. Imaginons deux pièces de monnaie. Deux pièces de monnaie qui sont balancées par une machine et non pas par mon doigt. Avec Alice et Bob, ils jouent à pile ou face. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Alain Aspect ? Alors, Alice à pile et Bob aussi à pile. Et au dernier moment, c'est au dernier instant que ça se décide ?
Alors, Vous allez vite, vous avez bien lu mon livre apparemment. L'intrication, c'est l'expérience que j'ai faite et qui m'a valu d'aller à Stockholm. On prend deux photons, on les envoie vers deux partenaires, Alice et Bob, qui font dessus une mesure. Et pour chacun d'entre eux, la mesure ne peut donner qu'un résultat parmi deux, on va appeler plus un et moins un. D'où l'image des pièces de monnaie. Donc vous avez une machine au centre qui envoie deux pièces, une à gauche, une à droite. Les gens lancent les pièces vers le haut et ça a l'air parfaitement aléatoire. Sauf que si vous prenez du recul et que vous regardez les deux à la fois, vous apercevez, comme vous l'avez dit, que si Alice a pile, Bob a pile, et si Alice a face, Bob a face. Et là vous dites, il y a un truc, forcément.
Oui,
il y a un truc. Alors, dans le monde normal, il y a un truc. Et dans le monde normal, si vous réfléchissez un peu, un truc possible consistera à dire « Ah ouais, mais la machine, elle fabrique des pièces avec deux piles ou des pièces avec deux faces. Donc si elle fait une pièce avec deux piles, elle envoie à Alice, et une pièce avec deux piles, elle envoie à Bob, forcément, elle va avoir le même résultat. » L'intrication, c'est précisément le fait que le résultat est aléatoire d'un côté, aléatoire de l'autre, mais fortement corrélé, c'est-à-dire si l'un a plus un, l'autre a plus un, si l'un a moins un, l'autre a moins un. Et Einstein dit, il y a forcément un truc, et le truc, c'est que les deux particules, dès le début, avait la propriété qui a déterminé le résultat. Et Bohr lui dit non, pas du tout. Si tu prends au sérieux le formalisme quantique, ce n'est qu'au dernier moment, jusqu'au dernier moment.
Bohr, c'est un immense physicien, lui absolument. Aussi, venu du Nord.
Et donc, vous m'avez interrompu, j'ai perdu le fil.
Non, pas du tout, vous disiez que Einstein...
Alors, et donc, ce que Bohr dit, et que j'ai démontré par mon expérience, c'est que jusqu'au dernier moment, vous imaginez la particule avancée, ou la pièce de monnaie fictive, jusqu'au dernier moment, elle est à la fois pile et face, et d'un seul coup, la mesure se fait, elle est pile, et paf, l'autre qui est de l'autre côté est pile aussi. C'est ça la non-localité quantique, dans l'intrication quantique, c'est ce que j'ai eu le bonheur d'arriver à démontrer dans le laboratoire.
Et c'est ce que Einstein avait du mal à expliquer, si on veut le dire de manière un peu rapide ?
Non, il n'avait pas du mal. Einstein pensait que les objets ont une réalité physique indépendante de la façon dont on observe, alors que Bohr disait « la réalité physique des objets n'est pas intrinsèque, elle dépend de la façon dont on observe ». Et par ce raisonnement que je viens de vous décrire sur les pièces de monnaie, Einstein disait « vous voyez bien que si vous voulez que ce soit raisonnable, il faut que dès le départ, les particules aient leurs propriétés, qu'elles sachent dès le départ si elles sont pile ou si elles sont face ». Et Bohr disait « non, c'est au dernier moment ». Donc c'est ce point de vue d'Einstein sur le monde qui est remis en cause par des expériences comme la mienne. Et j'ajoute tout de suite, parce que je ne veux pas qu'on dise que j'ai démontré qu'Einstein avait tort, j'ajoute immédiatement, oui, mais c'est Einstein qui a découvert cette situation extraordinaire d'intrication, qui a mis le doigt dessus, et aujourd'hui c'est à la base du développement des technologies quantiques. Donc, honneur à Einstein, une fois de plus, il en avait besoin.
Honneur à Einstein, on va prendre une autre image qui est dans votre livre avant de voir ce qui se joue aujourd'hui. Vous vous référez donc à une image qui nous aide à comprendre la différence entre la physique classique et la physique quantique, celle de deux boules de billard. On est en train de jouer, elles s'entrechoquent. Expliquez-nous ce qui se produit.
Eh bien, dans la physique classique, deux boules de billard, a priori, si on a suffisamment bien contrôlé les paramètres, on sait dans quelle direction elles vont partir. D'ailleurs, les très bons joueurs de billard anticipent bien le mouvement qu'il va y avoir. Mmh. Eh bien, en physique quantique, quand vous avez une collision entre deux particules, la particule qui émerge va être décrite non pas par une trajectoire précise, mais par une onde, et une onde, ça se déplace partout, et donc elle peut aller à plusieurs endroits, et ce n'est une fois de plus qu'au moment de la mesure qu'on va la trouver ici ou là, et c'est au dernier moment que ça se passe. C'est bizarre la physique quantique.
C'est bizarre la physique quantique, mais c'est absolument passionnant, c'est-à-dire que c'est un système intriqué, et en l'occurrence, les deux boules, elles ne sont pas séparées une fois qu'elles se sont percutées, elles sont toujours, allez, je vais le dire d'une manière un peu facile, elles sont toujours liées l'une à l'autre.
Ah oui, absolument, on peut le dire comme ça, mais de toute façon, les mots sont toujours difficiles. Ce qui est tout à fait incroyable dans la physique quantique, c'est qu'il n'y a aucune ambiguïté sur les mathématiques, sur ce qu'on appelle le formalisme mathématique. Tout le monde est d'accord sur le faire. Et après, chacun développe sa propre image mentale. Moi, j'ai une image mentale dans laquelle j'accepte que des choses aillent plus vite que la lumière, etc.
Vous faites aussi dans ce livre de la pédagogie, et une pédagogie absolument utile parce qu'elle nous permet de comprendre, parfois de toucher du doigt, d'avoir une lueur en tout cas sur l'émergence de la physique quantique. Qu'est-ce qu'on lui doit ? Quels sont les objets du quotidien par exemple qui ne seraient pas imaginables sans la physique quantique ? Le laser, le GPS ?
Oui, alors merci de me poser la question, parce que je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs aient conscience de l'importance de la physique quantique, et c'est un peu pour cette raison que j'ai voulu écrire ce livre, parce que j'adore expliquer. Je fais des conférences grand public, je vois l'intérêt des gens, je suis émerveillé par l'intérêt d'une part notable de nos concitoyens qui aiment la science. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la physique quantique a totalement bouleversé notre société. C'est ce que j'appelle la première révolution quantique. Elle a émergé au début du XXe siècle. En 1925, ça y était, on avait les mathématiques, on avait la fameuse équation de Schrödinger. 1947, première utilisation vraiment pratique de l'équation de Schrödinger, on invente le transistor. 47. Il va falloir encore une bonne dizaine d'années pour mettre beaucoup de transistors sur une seule puce. C'est le début de l'ordinateur. 1960, autre application de la physique quantique, le laser.
Oui.
Et il faut encore au moins 20 ans, sinon plus, pour qu'on ait des ordinateurs pour tout le monde, des iPhones et les autoroutes de l'information à fibre optique. Résultat, transformation radicale de la société avec la société de l'information et de la communication, dont les gens ne se rendent pas compte que la physique quantique a bouleversé la société au moins autant que la machine à vapeur au 19e siècle.
L'Internet au débit, un laser, on voit aussi que ça découpe aussi, ça c'est passionnant. On s'en sert dans l'industrie, on s'en sert en microchirurgie. J'aimerais juste qu'on entende une voix, celle justement de celui à qui vous rendiez hommage.
We are concerned not merely with the technical problem.
Albert Einstein, c'est le 3 octobre 1933, il prononce à Londres une conférence de soutien aux réfugiés qui fuyaient le nazisme. Nous ne sommes pas seulement préoccupés par les problèmes techniques pour sécuriser et maintenir la paix, mais aussi par la tâche importante de l'éducation et de l'éveil spirituel. Sans cette liberté, il n'y aurait pas eu de Shakespeare, de Goethe, de Newton, de Faraday, de Pasteur et de Lister. On en est au même point aujourd'hui ?
Et à mon avis, c'est encore pire parce que à l'époque d'Einstein, on se disait qu'il y avait un phare de la liberté de l'autre côté de l'Atlantique. Et je dois dire que je suis absolument effrayé en pensant que, alors que toute ma vie, je m'étais dit que si le fascisme revenait en Europe, si les années 30 revenaient en Europe, eh bien, il faudrait aller à l'ouest en direction des États-Unis. Aujourd'hui, je suis plus sûr que c'est là qu'il faut aller, tellement ce qui se passe est épouvantable. C'est une attaque contre la science. C'est pire que le macartisme. Le macartisme ciblait quelques individus. Je défends pas du tout le macartisme.
Bien sûr.
Ciblait quelques individus. Là, on cible la science en tant que telle. La science du climat, la science des vaccinations, la science des épidémies. Rendez-vous compte, les États-Unis étaient l'endroit de référence pour étudier les épidémies mondiales. Ils sont en train de virer les chercheurs.
Et ce sont des certitudes qui sont remises en cause aujourd'hui.
Oui.
Ce sera la morale de l'histoire. Merci Alain Aspect d'avoir participé à ces 15 minutes de plus. C'était un honneur de vous recevoir. Prix Nobel de physique. Et je rappelle le titre de ce livre, Si Einstein avait su, c'est publié chez Odile Jacob. Et je le recommande chaleureusement.